Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 152e épisode du Bulletin GP. Ici Marc-André Fortin, toujours en remplacement à Abdou Sall. Et puis, ce sera notre dernier épisode ensemble en tant qu'animateur. Je vais laisser le micro à Abdou, qui est de retour du Sénégal, pardon. Et puis, il va faire son grand retour à l'après-course du Grand Prix des États-Unis au Texas. À Austin. Donc, merci beaucoup d'avoir été là pendant son absence. Je pense qu'on a eu quand même beaucoup de plaisir ensemble. Et j'accueille de ce pas celle qui m'a accompagné durant toute cette aventure, Anna Maria Mercato-Lopez. Salut Anna Maria.
Salut Marc-André. J'ai presque dit salut à nous.
C'est normal, on est tellement habitués. Devoir me réhabituer justement à dire salut Abdou dans quelques jours même, parce que le Grand Prix du Qatar, en train de me mélanger avec l'un de nos sujets, le Grand Prix des États-Unis s'en vient à grands pas en fin de semaine. Et vous donner l'horaire exactement tantôt. Pas trop dur. Et en territoire nord-américain, la Formule 1, le retour sur notre territoire, donc une heure plus normale pour nous, pour les lefteurs, c'est tant mieux. Pour ceux qui se lèvent tôt habituellement, vous allez devoir attendre juste en après-midi pour voir votre Grand Prix préféré. Moi, personnellement, petit aparté comme ça, c'est l'un de mes favoris, le Grand Prix des États-Unis. C'est toujours un Grand Prix où on peut avoir un beau spectacle, où les pilotes se donnent quand même corps et âme. Je pense que c'est une énergie que les pilotes aiment beaucoup. Bientôt, on va découvrir le Grand Prix de Las Vegas. J'ai hâte de découvrir ce dernier. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite passer au premier sujet rapidement, Anna Maria. Mais avant tout, on va terminer l'épisode en parlant des pilotes payants. Maintenant, quelle sera la question exacte? On se demande si les pilotes payants ne vont pas peut-être disparaître avec la superlicence, ce plafond budgétaire. Je me base sur un article du motorsports.com. L'auteur est Benjamin Vinel. C'est un petit peu lui qui a amené cette idée. Justement, la question à savoir si le modèle du pilote payant allait disparaître. Donc, moi et Anna Maria, on va débattre sur cette question dans quelques instants. Mais avant tout, j'ai raté un peu mon introduction, mais on va parler du Grand Prix du Qatar. Malheureusement, on n'a pas pu le faire la semaine dernière. On a eu un petit pépin technique qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu vous présenter un épisode comme on le fait habituellement. On tient à s'excuser encore une fois. Et Anna Maria, on va revenir sur ce Grand Prix qui a fait le tour du monde. Les images vraiment crève-cœur de voir des pilotes du souffle. On est quand même habitué de voir certains pilotes avoir de la difficulté dans les grandes chaleurs. On pense à un Grand Prix comme Singapour qui est extrêmement demandant physiquement en raison de la chaleur. Et là, à Namara, on était ailleurs, mais mille et des mille ailleurs là, dans ce contexte du Qatar, alors qu'il faisait plus de 50 degrés, l'humidité était à plus de 74. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Grand Prix-là, Anna Maria, quand tu voyais ces images?
Mais c'est un peu... Mais je ne m'attendais pas à beaucoup, je m'attendais que ce soit chaud, mais je pense qu'il y a des... parce qu'on va le dire tout de suite, il y a des gens qui disent mais il avait déjà fait un Grand Prix de Qatar, il n'était pas comme ça, et puis il avait fait un Grand Prix de Qatar, il n'était pas comme ça, il ne faisait pas si chaud. En plus, ils n'ont pas fait de course sprint, je pense que ça contribuait aussi à épuiser plus les pilotes, parce que ce n'est pas pareil, tu fais pendant ta pratique libre, les pilotes ils vont s'habituer au circuit, ils vont s'habituer un peu à la climat, à la température. Mais cette fois-ci, ils ont passé d'une pratique libre, tout de suite, il y avait la qualif. Et après, samedi, c'était qualif, course sprint, qui était un peu court. Mais je pense que sont plus... La limite d'arrêt ou la limite de tour pour les pneus. Aussi, ça épuisait un petit peu plus. Les pilotes avaient besoin de pousser plus pour réussir à garder au moins les maximum les maximum de comment ça se dit, les maximum de rendement, de performance, c'est ça. Et je pense que ils ont pas je dirais pas que les pilotes n'étaient pas préparés parce que chaque pilote, il y a son entraîneur qui est à côté, il sait comment se préparer pour chaque Grand Prix. Mais je pense que la FIA, la FIA comme tal, il n'avait pas prévu ça. Il a poussé les pilotes, ils n'ont jamais dit d'arrêter, ils n'ont jamais mis un avertissement à. Dans les soccer, c'est fait. Miami, des fois, il fait trop chaud. Ils font une pause, même si les matchs de soccer ne s'arrêtent pas. Ils font la pause pour se réhydrater. Mais dans la Formule 1, ce n'était pas le cas. En plus, les autos, ça réchauffe. Et c'est ce qu'ils disaient les pilotes, c'est que pendant la journée, il faisait chaud, c'est comme un sauna. Mais pendant la nuit, c'était encore plus humide que pendant la journée. C'était encore pire la température. Et je pense que c'est quelque chose qui ne devrait pas encore arriver. Et la FIA a déjà pris des mesures, bah, entre guillemets, ils ont dit qu'ils vont prendre des mesures pour que la situation ça se reproduise pas. Mais disons, il y a Singapour, des fois, il y a un pilote qui était poussé, mais ici, c'est tous les pilotes, même celui qui faisait qui paraissait plus fort, quand même tous les pilotes y étaient un peu malades. Et ça, on peut pas dire que c'est parce qu'ils n'étaient pas préparés, que la chaleur, non, c'est parce que la température était trop extrême. Et je pense que ils ont touché la limite du danger, parce que des fois, ils disent la sécurité avant tout. Mais il y avait des pilotes qui conduisaient épuisés, des pilotes qui ont vomi dans son casque, des pilotes qui s'évanouissaient à sortir de la voiture. Et je pense que la conduite avait des facultés affaiblies. On a vu, ce n'était pas l'alcool, mais on a vu des pilotes déshydratés qui étaient un peu tout malades. Et que ça, j'espère qu'on ne va pas revenir à ça à Qatar.
Exact. Puis ton point est très bon dans le sens qu'on a vraiment touché, je trouve également, à la limite de la dangerosité. Il y a un de mes amis qui venait tout commence à suivre la Formule 1 depuis 1 ou 2 ans. Il m'a posé la question tout de suite après. Moi, j'avais pas à ce moment-là, je n'avais pas écouté la course. J'ai lu tout ce qui était en lien avec la course. J'avais lu tout ce qui était voiture, par exemple. J'avais vu les images. J'avais vu les faits saillants de la course, mais je ne m'étais pas encore assis pour regarder la course. Je l'ai fait quelques jours après. Mais quand il m'a posé la question, j'ai dit, écoute, moi je trouve qu'en ce moment-là, la Formule 1 s'est améliorée dans tous les domaines. C'est beaucoup moins dangereux. Si, en cas d'accident, on l'a vu dans un accident aussi grave que Romain Grosjean, un pilote peut s'en sortir malgré un accident terrible. Mais quand il est question d'argent, quand il est question de faire du profit, quand il est question de ne pas perdre d'argent, et là, la Formule 1, c'est là qu'ils perdent tous leurs moyens. Dès qu'il y a des billets verts, ou même, je dirais, pas mal de billets bruns canadiens en jeu, c'est là que la Formule 1 perd la tête. Je pense réellement que cette course-là n'aurait pas dû avoir lieu. Ça aurait été terrible en perte financière. Je suis capable d'accepter cet argument. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir à la sécurité des pilotes avant tout. On va devoir aussi, écoute, quand il fait aussi chaud dans un pays aussi humide, où tu sais très bien que la température ambiante dans une voiture, dans une monoplace, c'est 4 fois pire, ben, je pense vraiment pas que c'est acceptable qu'un pilote ou que des pilotes compétitionnent dans ces conditions. Ajoutons à cela le fait que les pilotes devaient faire obligatoirement 3 arrêts au puits, ce qui faisait en sorte que les pilotes devaient pousser au maximum la voiture afin de ne pas perdre de temps et d'être compétitif sur le circuit. C'est un peu l'objectif de tout le monde d'y arriver. Écoute, tout le monde était exténué là, à la fin de cette course. On a vu les pilotes sortir avec difficulté de la voiture. Puis, je me souviens, il y a quelques années, on regardait, par exemple, encore une fois, le Grand Prix de Singapour. Puis, on voyait les pilotes fatigués, très fatigués, mais jamais à ce point. Puis, en plus de ça, les entraînements des pilotes durant l'hiver n'ont jamais été aussi bons. Les pilotes n'ont jamais été aussi en forme. Donc, venez pas me dire que c'est la forme physique des pilotes qui était questionnable à ce moment-là. C'est vraiment les conditions qui étaient inacceptables. Je donne l'exemple du soccer, par exemple. Ça va être à mon tour, Abdou, de prendre une référence soccer. Lorsqu'il fait très chaud dans un match de soccer, il y a ce qu'on appelle là, des pauses d'hydratation, pardon. Pauses obligatoires. Je ne sais pas exactement c'est combien de temps. Je pense que c'est après chaque 30 minutes. Obligatoirement, il doit avoir une pause d'hydratation pour protéger les joueurs de cette chaleur. Formule 1 sont dans une monoplace, ils devaient faire peut-être 70 degrés, mais non, on continue, on ne fait pas attention aux pilotes, on poursuit, parce que quoi? Il y a beaucoup d'argent en jeu. Est-ce qu'on aurait pu déplacer quelque peu, peut-être au lundi de la course? Ça aurait encore été des pertes financières, mais je pense qu'on aurait dû penser aux pilotes à ce moment-là. Maintenant, Anna-Maria, quelle est la suite des choses, selon toi, pour le Grand Prix du Qatar? Premièrement, doit-il revenir? On sait que la FIA est en enquête présentement sur ce qui s'est passé au 14, sur ce qu'on doit faire la prochaine fois. De ton point de vue, que devons nous faire? Je parle de nous, mais je parle de la Formule 1 avec le Grand Prix du 14.
Mais je pense, mais déjà, parce que ici, on ne parle pas de questions politiques de rien, mais déjà, c'était un Grand Prix qui ne devrait pas exister. Déjà, de base.
Merci de le dire.
Et maintenant, il y a en plus la dangerosité, et on ne parle pas, de la voiture et de la sécurité, on parle de la santé des pilotes. Tu parles de déshydratation, ce n'est pas une question de forme, quand c'est la déshydratation, tu n'as rien à faire. Tu peux continuer à boire de l'eau, et il faut t'allonger, il faut des soins médicaux, c'est ça. Ça. Quand le pilote arrive là, c'est pas une question, non, il n'est pas pris de l'eau, il n'est pas. Non, il est complètement déshydraté. Peu importe ce qu'il voit, il faut qu'il y ait les soins médicaux. Mais je pense qu'il ne devrait pas revenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont signé pour quelques années. Mais la fille va suivre avec ça. Ils ont déjà dit que l'année prochaine sera plus tard dans l'année, ça serait peut-être moins chaud, c'est l'idée. Un peu comme ils ont fait la FIFA, plus tard pour que ce soit moins chaud.
On parlait de décembre.
En même temps, il y a encore prévu la course sprint. Je dis, si tu as déjà des problèmes, en plus, ils ont fait des modifications dans les circuits. Ils ont rétréci les circuits, ils ont mis plus de pian, plus de difficultés aux circuits, qui fait en sorte que beaucoup de pilotes quand on a regardé la qualif, à la fin de la qualif, je pense qu'ils sont 5 pilotes qui ont réussi à faire des temps, parce que les autres, ils ont fait toujours effacer l'état, c'est que au moins 2 ou 3 pilotes en Q3, ils n'ont pas eu de temps parce qu'ils étaient éliminés à cause des limites, c'est autre problème en plus. Ils ont ajouté toutes les difficultés possibles dans un circuit où ils ne devraient pas avoir de course. Tu mets l'obligation de s'arrêter, tu mets les circuits plus étroits et les limites de piste et en plus. La course sprint, c'est ça que ça rentre pas dans ma tête. Déjà, une course complète, c'est puissant et refuse déjà le pilote un jour avant parce que c'est pas pareil faire les pratiques que faire une course sprint juste avant la course. Mais que pour moi, ça ne devrait pas avoir lieu déjà. Ça ne fit pas avec les valeurs que la propre FIA y essaie de promouvoir. Déjà. Bon, ouais, j'espère qu'il va y avoir des mesures, mais il est déjà dans les calendriers. Je ne pense pas qu'ils vont l'enlever.
Bon, moi, la seule chose que je demande, justement, écoute, que si tu retardes légèrement le Grand Prix, déjà en décembre, il y a une différence de température. Je ne suis pas météorologue, donc je sais pas à quel point elle est grande, mais elle existe. C'est pas pour rien que la Coupe du Monde s'est faite plus tard. C'est parce que c'était dans des conditions plus favorables. Je le mets en gros guillemets pour les joueurs. On lisait aussi dans un communiqué de la FIA qui voulait s'attarder à certaines mesures qui pourraient être faites comme l'amélioration de la circulation de l'air dans un cockpit ou justement même je lisais et je me souviens plus de la source là, je vais la retrouver avant la fin du Grand Prix pour pouvoir vous la citer, mais je lisais que la FIA voulait peut-être regarder pour des sièges rafraîchissants, des sièges plus froids. Je dis ça sous toute réserve. Là, je me souviens d'avoir lu ça à quelque part, mais je vais vous revenir, je vous promets, avec la source avant la fin du Grand Prix podcast. Et si je ne le retrouve pas, ben, je vais juste reprendre mes mots et vous allez devoir tout oublier. Mais je pense qu'il y a plusieurs solutions qui pourraient être apportées justement que les pilotes ne sont pas des cobayes. C'est un peu que Verstappen a reproché à la Formule 1 lors de ses commentaires d'après-course. Il était pas mal fâché que la FIA ait imposé des relais de 18 tours maximum sur les pneus. Selon lui, c'est vraiment un des points qui a fait la différence. En même temps, on parlait de sécurité parce que les pneus se dégradaient très rapidement. Mais quand même, je pense que certains pilotes ont été très mécontents que justement que les pilotes aient été pris un peu en cobaye, que les pneus n'étaient pas justement adaptés pour un tel circuit. Donc, il y a beaucoup de choses à dire quand même sur le Grand Prix du Qatar, mais somme toute, je pense que tout le monde est unanime. La FIA doit prendre ses responsabilités rapidement. Ils vont devoir, premièrement, revenir aux médias rapidement avec des solutions et de bonnes solutions. Le 14, le Grand Prix ne disparaîtra pas. Ça, on peut tous être d'accord, entre guillemets. Je pense qu'on s'attend tous à le voir de retour l'an prochain, probablement en décembre. Mais moi, je veux qu'on fasse attention aux pilotes. C'est tout ce que je demande. La sécurité, c'est quelque chose que je prône énormément. Je pense qu'il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites. Je ne vais pas me répéter, mais il y a beaucoup d'avancées technologiques qui ont été faites dans les dernières années. Et il ne faut pas gâcher tout ça par le vouloir du gain à tout prix. Je pense que ça, la Formule 1 a énormément de problèmes. On le voit lorsque la Formule 1 offre des Grand Prix, bras ouverts à des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, alors qu'ils ne respectent pas les droits humains. Je pense vraiment que la Formule 1 va devoir faire de l'introspection dans les prochaines années pour tenter d'être le plus blanc possible. Mais somme toute, ça a été un Grand Prix extrêmement difficile. Et puis, je pense que le futur du Grand Prix du Qatar n'est pas en jeu, mais effectivement, j'aimerais qu'il y ait de grands changements. On va s'arrêter là pour ce sujet, Anna-Maria, si tu le veux bien. Je me tournerai vers l'autre sujet. Un sujet qui vient toujours me chercher, vraiment, Lorsqu'on parle de pilotes payants, on revient souvent, dès que je vous dis ça, je sais très bien que vous avez des noms en tête, dont celui qui est interdit de nommer au bulletin GP. Je ne nommerai pas Abdou, t'inquiète pas, mais ça commence par M. Comme je disais en introduction, on se base pour ce sujet sur un article de Benjamin Vinel dans le motorsports.com. Lui qui se demande si, avec l'arrivée du plafond budgétaire, le modèle de pilote payant devient-il hors complet? Parce qu'on sait que déjà avec la super licence, ces jeux-là, ça amenait quand même une certaine... Exact, ça filtrait un petit peu quand même, même s'il y a eu un petit maudit qui s'est faufilé là, il y a quelques années en celui qui porte le nom de M. Et drôlement, je pense que je suis d'accord. Anne-Marie, est-ce que tu penses qu'avec l'arrivée du plafond budgétaire, c'est quelque chose qui pourrait commencer tranquillement à disparaître parce que les écuries vont avoir moins besoin de ce financement-là. Ils peuvent se financer différemment maintenant là, parce qu'ils ont besoin de moins d'argent.
Oui, puis non. C'est pas parce qu'ils ont besoin de moins d'argent. Parce que, regarde, les petites équipes qui sont eux qui ont reçu, qui vont aller chercher souvent des financiations avec les pilotes. Et les petites écuries, ils ont les mêmes problèmes. C'est pour ça qu'ils ont baissé les plafonds budgétaires. Parce que quand même, ils sont dans les troubles. Ah, s'il y a des problèmes, William, il y a des problèmes financiers. Même à Aston Martin, on croit que ils jettent les cash, mais non, ils ont aussi la difficulté à retrouver les deux buts. C'est ça, j'ai dit, avec les plafonds budgétaires, je pense que ça va empirer parce que de toute façon, ceux qui n'appellent pas les pilotes, ceux qui ne vont pas chercher les pilotes payants, c'est les équipes qui ont une santé financière, entre guillemets. Fait que ils n'ont pas besoin de toute façon. Mais ce qu'ils ont besoin, ça n'a pas changé. Parce que si la FIA avait le plafond budgétaire, c'est juste pour ça. Pour aider les petites équipes à rejoindre les doubles parce qu'ils manquent de l'argent tout le temps. Mais je pense que le plafond budgétaire, ça empire un peu la situation. Et de toute façon, il faut voir que. Peut-être il y a des pilotes qui se voient plus que d'autres, mais ça existe toujours. Quelqu'un qui a le cash et est capable d'aller en Formule 1. Je dis, si dans les années 80, il n'y avait pas assez, c'est parce que des fois, ceux qui financiaient les équipes, ils ne voulaient pas mourir non plus. Mais maintenant, il y a tellement de sécurité que tu n'as pas peur de mettre ton enfant dans l'auto.
Tu vois, moi là où je suis quand même d'accord avec Michel, c'est là où, bon, je vais vous résumer un peu son point. Lui, il mettait trois grands points. Premier, bon, l'arrivée de la super licence faisait en sorte qu'il y avait déjà un bon filtrage. Avant, il suffisait d'avoir 300 km au volant d'une Formule 1 pour pouvoir s'engager en Formule 1. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut qu'il y ait de bons résultats pour réussir à obtenir tes 40 points pour finalement, dans des formules de promotion, là, Formule 3, Formule 2 et tout ça, pour pouvoir avoir ta carte et ta super licence. Son point numéro 2, c'était le plafond budgétaire. Selon lui, les sponsors de pilotes sont moins susceptibles de faire la différence quand les écuries sont plus proches du plafond. Et le troisième point, il vient me chercher parce que je suis quand même encore plus d'accord. Selon lui, la hiérarchie est tellement plus serrée maintenant, en dehors de Red Bull, bien sûr, là, que ça permet vraiment aux pilotes de devoir faire la différence. Et on le voit à quel point ça peut être coûteux peu d'avoir un pilote qui n'a pas de performance attendue. Je parle de Logan Sargeant avec Williams. Actuellement, on le voit à quel point c'est important d'avancer des points, puis de c'est tellement serré. Parce que je pense que là où il y a de l'argent à faire actuellement, là, au championnat des constructeurs, c'est un peu... Benjamin Vinel a parlé avec James Vowles, qui est le directeur de Williams. Puis ce qu'il disait, c'est, je vais vous le citer, là, c'est une méritocratie. Il ne s'agit pas seulement d'apporter quelques millions pour améliorer les finances. Ces quelques millions viennent du championnat des constructeurs en faisant un pas en avant par rapport à nos pairs. C'est donc un changement positif pour le sport. Je ne sais pas si tu es d'accord avec son point, mais moi, je pense que de plus en plus, ça va être compliqué pour des écuries uniquement misées sur de l'argent venant de sponsors de certains pilotes. À un moment donné, ça va tellement devenir payant, le championnat des constructeurs. La Formule 1 est tellement en montée actuellement. Les finances vont tellement bien collectivement. J'ai l'impression qu'il n'y a plus une écurie qui peut cracher sur une bonne position, encore moins qu'avant, uniquement pour avoir, je ne sais pas moi, peut-être 40-80 millions de plus de la part d'un pilote.
Mais ça dépend aussi, mais il faut se rendre aussi. Parce qu'il y a deux choses. Pour avoir l'argent de performance, il faut avoir la voiture pour le faire aussi. Et c'est ça, quand tu vois des équipes comme Haas, qui des fois, ils vont pas courir parce qu'ils ont pas de, ils ont même pas de pièces de changement. Mais c'est là que les équipes, bah oui, c'est ça. De toute façon, les pilotes payants, ils viennent pas avec l'argent. Ça vient avec des sponsors, la décoration de la voiture. Et c'est ça. Si tu peux profiter quelque chose, tu vas profiter, et sinon, c'est la subie. C'est bien beau, William, quand il parle, mais oui, on a aussi les cash de courrier historique, mais maintenant, il peut dire, ah, ben là, mais les cash qui viennent, mais c'est pas le cas pour As. As, Alpha Tauri, même qu'Alpha Tauri, on la voit plus comme une école. Mais Haas, Alfa Romeo, ils n'ont pas de bonus historique. Et l'argent qu'ils vont ramasser, des fois les équipes, la santé financière n'est pas là. Des fois, ça sert juste à payer des dettes qu'il y avait avant. Et c'est pour ça que ça va suivre toujours. Mais oui, les pilotes, de toute façon, ils font sa carrière, ils vont chercher les points, ils vont réussir. Mais tu vois, Maldonado est un pilote payant, mais il a quand même gagné les GP2. C'est ça. Il y en a qui vont performer, il y en a d'autres qui ne vont pas rester longtemps. C'est sûr que c'est ça la différence. Qui vont arriver, mais ça dépend de la performance, combien de temps ils vont rester avec ça. Parce que oui, William, il est un problème, il y a sa gens qui n'apporte pas de points, mais il apporte de l'argent, mais il ne décide rien parce qu'il faut le remplacer pour quelqu'un qui n'arrive pas juste avec des talents. Ça existe pas dans la Formule 1, ¿no? O tú arriba, quelque chose, ven Carlos ahí y a son sponsor, sí. Y a Popa de la Jean a Ferrari, me iban para crasher su sponsor.
Ajá.
De que por más, ça va rester por beaucoup de temps encore. Plus que ça avance, yo pense que ya muy de personas, muy de monde que y on la facilité d'aller dans le motosport. Il faut avoir la financiation, parce que sinon, tu peux pas rester. Il y a des pilotes qui arrivent à F3, ils vont pas arriver à F2, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de sponsor, ils n'ont rien, ils vont pas continuer.
quand même d'accord avec
même
toi.
Des, ça commence au karting. Le karting, c'est papa et maman. Parce que personne va me dire que quelqu'un de karting, c'est ton esposo ou non. Mais un karting, c'est ta famille qui t'apporte tout l'argent. À partir de là, c'est moins pire, mais quand tu arrives à F2, c'est...
Oui, puis, tu sais, quand on regarde aussi, j'ai juste l'impression que plus le temps passe, moins il va y avoir de pilotes payants pour les raisons que j'ai énumérées. Parce que, écoute, pour vrai, je pourrais mettre le lien de l'article de Benjamin Vinel, mais pas tous les points avec lesquels il se base, je suis en accord avec lui. Payant d'avoir un pilote payant. Ça va tellement être payant d'avoir la meilleure position que les écuries n'auront pas le choix de faire les efforts pour arriver à obtenir ce financement-là. Donc, parce que, écoute, financièrement, justement, je vais le mentionner, la Formule 1 est en hausse, en croissance énorme. Donc, quand je regarde le potentiel que peut avoir, la Formule 1, je ne peux pas croire que des écuries pourront se priver de ce financement, mais je peux me tromper. Puis également, c'est dérangeant des pilotes payants, ça fait toujours jaser. Les gens n'aiment pas ça. On l'a vu avec M, c'était assez désagréable à voir parce que quand tu sens qu'un pilote n'a pas rapport en Formule 1, ça paraît tellement. Puis certains vont dire, ah, Logan sort t'amène un bon financement quand même. Il n'est pas de niveau présentement. Laissons-lui quand même la chance. Laissons la chance au coureur. Je pense que une année recrue, c'est jamais facile. Certains s'en sortent bien mieux que d'autres. D'autres vont avoir beaucoup de difficultés. Donc, je pense qu'on s'en va vers un changement positif. Pour la Formule 1, je m'attends à ce que dans quelques années, je ne m'attends peut-être pas à ce que le terme pilote payant disparaisse totalement, mais j'ai comme l'impression qu'on va en entendre moins parler. Puis l'objectif, je pense qu'au fond, en amarrage, c'est ça, là, c'est que les pilotes payants disparaissent. Est-ce que tu crois que la Formule 1 devrait faire quelque chose de plus? Est-ce que la super licence est suffisante? Est-ce que la super licence devrait être plus haute? Est-ce qu'elle devrait être peut-être plus difficile à aller chercher? Est-ce que la Formule 1 et la FIA doivent, selon toi, intervenir pour essayer d'empêcher les pilotes? Ou au final, c'est quand même payant pour eux d'avoir des pilotes comme ça? T'entends pas, Némaria?
Mon micro était fermé. Non, j'ai dit que en fait, c'est payant pour tout le monde parce que les pilotes payent de toute façon pour se rendre là. Il faut qu'ils fassent sa carrière. Il y a des empêchements. Tu vois que dans la IndyCar, on voit des fois des pilotes qui ont dit « Ah, sont très performants, ils pourraient aller à Formule 1, mais ils n'ont pas droit à la superlicence parce que la FIA y empêche, il y a ces catégories, la F3, il y a la F2, c'est ça. Je pense que de toute façon, les pilotes pour se rendre là, même s'ils ont de l'argent, ils doivent avoir quelque chose. Oui, ils ont des talents, mais tu ne peux pas découvrir les talents si tu n'as pas l'argent pour te payer la voiture. Pour aller en karting, les enfants ont 5 ans, puis ils n'ont pas l'argent, c'est sûr que c'est les parents qui payent pour ça, et s'ils n'ont pas pour payer ça, ils ne vont pas se rendre, tu ne vas pas savoir si elle est là. C'est sûr. Je ne dis pas que c'est bon pour la Formule 1, je dis que peu importe, tous les pilotes qui sont en Formule 1, ils sont là, payant ou non, ça dépend, parce que je dis entre guillemets, parce qu'il y a qui sont étiquetés de païens, mais il y en a d'autres que de toute façon, ils sont païens parce que si, ils sont là à cause de ces sponsors qui vont couver. Mais oui, il y a qui performent et il y a qui ne performent pas. C'est plutôt sur la différence. Il y en a qui vont performer, il y en a qui ne vont pas performer. Mais le côté païen, il était toujours là. C'est juste que celui qui est pas cap, qui est plus capable de se financer va rester plus longtemps. On va mettre un exemple. Je vais pas nommer personne, mais si on dit Checo Pérez.
Oui, est-ce il est que soutenu c'est par pilote, beaucoup c'est, d'argent mexicaine.
Mais c'est ça, il est soutenu pour Carlos Slim. Et si ce n'est pas de ses sponsors, il ne serait pas là. Parce que quand il était, oui, il performait à Racing Point, à Forza India, mais s'il n'y aurait pas l'argent pour se rendre, il n'est pas là, c'est tout. Parce que c'est bien beau, il pensait, ah, mais il faut les talents, mais pour découvrir tous ces talents, il y en a besoin de beaucoup d'argent.
Puis quand on regarde aussi, je pense qu'au fond, il y a vraiment bien touché au bobo, au bobo ou à l'exemple, je pense que ton exemple était bon. Tous les pilotes en tant que tels sont des pilotes payants. Certains réussissent à bien performer, d'autres réussissent tout simplement à percer. L'argent peut tenir quelqu'un ou un cœur artificiel peut permettre de se faufiler puis de rester en Formule 1 plus longtemps. Moi, je me dis également, un Max Verstappen, un Lando Norris, Oscar Piastri, ce sont tous vraiment incroyables. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que les écuries ont tout misé sur eux, dans leur développement, dans leur ride, dans les entraîneurs, dans tout.
Mais pas juste, il faut dire, c'est pas juste les écuries, c'est les parents aussi.
Exact, les parents. Tu sais, prenons l'exemple de Lewis Hamilton. Son père avait quoi, 3 emplois, je pense, pour lui permettre de pouvoir faire du karting. Sans cette. Tout cet effort-là de son père aujourd'hui, probablement que cette type, le champion du monde, n'existe même pas en Formule 1. Tu sais, donc. Quand tu penses à tout ça, la Formule 1, c'est bien beau, c'est un monde hyper privilégié. Ce sont des gens hyper privilégiés qui font ce sport-là. Et on le regarde en étant très conscient. Il ne faut jamais oublier que certains, je pense que tu as vraiment, vraiment eu le point de maître, puis on va s'arrêter sur ça. Et certains pilotes ont la chance d'avoir l'argent et le talent, d'autres uniquement l'argent. Et moi, ce que j'espère, c'est que dans le futur, les finances de la Formule 1 soient tellement bonnes que les écuries n'auront plus besoin de miser sur les pilotes payants, que ce soit Sergei Sirotkin, que ce soit celui qu'on ne nommera pas en M, ou n'importe quel autre pilote. Certains vont dire que Lance Stroll est un pilote payant. Ben, écoute, vous êtes vraiment en accord avec ça. Vous avez bien le droit. Je pense qu'on a tous notre opinion sur Lance Stroll et c'est pas aujourd'hui qu'on va débattre sur ça. Mais je pense vraiment que ce terme-là, pilote payant, tend à disparaître. Peut-être que dans 5-6 ans, je vais réécouter ça puis je vais m'en mordre les doigts. Mais pour le moment, j'ai confiance que les pilotes payants vont disparaître tranquillement, pas vite, avec le succès de la Formule 1 financièrement. Anna Maria, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes, presque une heure là, avec moi. C'est un plaisir de collaborer avec toi. On va se retrouver en tant que collaborateur à partir de la semaine prochaine. Abdou sera de retour. Je pense que tout le monde va être bien content de retrouver sa voix mielleuse. et moi, le premier, et avoir un grand plaisir de pouvoir continuer de collaborer avec lui en tant que animateur cette fois-ci. Sinon, ben merci à vous. Merci d'avoir été là durant l'absence d'Abdou. Merci d'être là également à son retour. N'oubliez pas qu'il va être de retour ce dimanche à pour l'après-course du Grand Prix des États-Unis. Maintenant, au moment où je vous parle, je voulais vous donner l'horaire et puis ma page s'est complètement fermée. Donc, je vais devoir gagner quelques minutes. Anne-Maria, est-ce que tu as hâte au Grand Prix des États-Unis?
J'ai hâte, j'ai l'horaire. Non, j'ai pas l'horaire, mais j'ai un but que ça. J'ai mon horaire ici.
Ce serait quoi tes attentes pour ce Grand Prix?
Ah, mes attentes, j'adore les circuits parce que pour moi, c'est les circuits plus amusants, je pense. S'il y a plus de. Il y a un petit peu de tout. Il y a de la place. C'est un, pour moi, c'est un vrai circuit. Pas nécessaire de limiter de pistes. Mm-hmm. Si tu sautes, tu ne gagnes rien. Et ça devrait être comme ça. Mais on va voir. Mais c'est sûr qu'on s'attend que la performance de Verstappen sera là.
Oui, c'est sûr.
Ça ne va sûr. Pas.
J'ai tellement hâte de voir la Red Bull dans les S. Ça va être incroyable parce que la tenue de cette voiture est magnifique. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et j'ai Laura devant moi. Donc, ça débute plus tôt. J'avais oublié de dire que c'était une course sprint. J'avais complètement oublié cette, oui. De vous le mentionner en début d'épisode. Donc, ça commence à 17h, à notre heure du Québec. À partir de 17h, la qualification vendredi. La qualification de la course sprint aura lieu le samedi à 13h30. La course sprint le samedi à 10h. Et finalement, on termine la course à 15h. Donc, en fait, la course le dimanche sera à 15h. Donc, vraiment, vraiment intéressant de voir et cette course parce que je m'attends vraiment à beaucoup de spectacles.
Et une dernière petite chose, je pense que c'est la dernière course aussi de la F1 Academy des filles, que c'est oui. À Texas aussi. Et je pense que pour la toute première fois, ça va être diffusé. Je n'ai pas sûr, mais je pense que ça va être diffusé oui, parce que c'est en même temps de la Formule 1 avec surveille ça aussi.
Je crois que tu as raison. La course F1 Academy devrait être télévisée. Je vais vérifier l'information juste pour être certain. Et puis, je l'écrirai là, dans la description si ce l'est. Mais il me semble que j'avais entendu dire que ce l'était. On parle sous toute réserve, bien sûr. Donc, Anne-Maria, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été avec nous pendant l'absence d'Abdou. Il sera de retour, comme j'ai dit, le dimanche pour le Grand Prix et puis pour l'après-course. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, @lebulletingGP. Suivre sur toutes les plateformes de balado préférées, que ce soit Apple Podcast, que ce soit Spotify et tous les autres. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle semaine et un très bon Grand Prix des États-Unis. Au revoir tout le monde.